Le SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo et sur Radio Territoria. On est ravis d'être en direct du SIEC, on est en direct de la Porte de Versailles. On vous fait vivre le SIEC édition 2026 pendant 2 jours. Et c'est vrai que malgré la progression continue du e-commerce, une tendance se confirme. Les meilleurs emplacements commerciaux restent extrêmement recherchés. Les enseignes sont aujourd'hui plus sélectives, privilégient moins d'ouverture mais de meilleures implantations, capables de capter les flux et d'offrir une véritable expérience client. On va en discuter avec mon invité. J'ai le plaisir d'accueillir Antoine de Bousquet. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes le directeur leasing retail France chez CBRE. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur CBRE. Qu'est-ce que vous faites chez CBRE ?
Alors, chez CBRE, on est le numéro un mondial de l'immobilier. On conseille nos clients, utilisateurs et propriétaires sur toutes les classes d'actifs partout dans le monde. Et j'ai la chance chez eux de m'occuper donc de la classe d'actifs du retail en France.
Alors, vaste sujet. Bon, on va commencer peut-être par... parce qu'on entend beaucoup parler du prime dans l'immobilier commercial. Concrètement, quand on parle d'un emplacement prime, aujourd'hui, de quoi parle-t-on exactement ?
Alors, la définition du prime, en une phrase, je dirais que c'est un ou des emplacements qui permettent d'attirer les plus belles enseignes. En général, c'est une combinaison de facteurs. Le principal va être la localisation, mais aussi ça va être l'exposition au flux. Et après, évidemment, la visibilité et la configuration. Et en fin de compte, c'est cette combinaison de critères qui va permettre d'attirer les meilleures enseignes. Quand on parle de prime, on pense toujours au meilleur loyer. En fin de compte, le loyer va être une conséquence de cette combinaison de critères, puisque c'est sur ces emplacements on va dégager le plus de chiffre d'affaires et donc être capable de supporter les loyers les plus élevés.
On va dire que tous les ingrédients sont là pour avoir un bon chiffre d'affaires quand on dit emplacement prime. Alors justement, CBRE explique que le marché est de plus en plus polarisé entre les emplacements les plus performants et les actifs secondaires. Bon, j'ai l'impression, c'est ce que vous constatez sur le terrain ?
Alors, le marché parle beaucoup de la polarisation entre le prime et, on va dire, les emplacements 1 bis et secondaires. C'est vrai, on observe effectivement un fossé qui se creuse. Après, moi, j'aime beaucoup parler de complémentarité, puisque ces marchés sont liés. Et en fin de compte, on s'aperçoit que quand le marché du prime progresse, comme on a pu voir très récemment que la rue François 1er s'était densifiée avec un petit peu l'extension naturelle de Montaigne, historiquement... la rue Saint-Honoré avec l'expansion du Faubourg. En fin de compte, quand le prime va bien, le marché secondaire va répliquer cette tendance proportionnellement de façon assez positive. Inversement, quand on est au creux de la vague et que le marché se porte un peu moins bien, les enseignes des emplacements secondaires vont avoir tendance à se reporter sur le prime et donc il y a un petit peu cet appel d'air. Le prime passe toujours devant, il y aura toujours des demandes pour le prime. Si on n'a pas pour le prime, il n'y en aura pas pour le secondaire. Mais la conclusion de ça, c'est que en fin de compte, le destin des deux sont liés dans le temps, même si à court terme, le prime peut un petit peu siphonner le marché secondaire.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de pouvoir d'achat des Français ? C'est vrai que le secondaire, on va dire que c'est des enseignes peut-être un peu moins prestigieuses, un peu moins haut de gamme, et cette polarisation, on la retrouve dans la consommation. C'est vrai que le luxe marche très bien, ça continue de résister en tout cas, et le discount, le low cost, on voit que ça explose. En revanche, le milieu de gamme souffre. On voit des enseignes qui ferment, des enseignes milieu de gamme, je pense récemment à Minelli par exemple, qui a fermé, il y en a d'autres, Kukai, San Marina avant. Est-ce qu'on n'assiste pas du coup à quand même une polarisation de la consommation et de ce fait le secondaire risque pas de souffrir de ça aussi ?
Alors le secondaire souffre un peu au profit du prime. On a une opposition aussi entre les régions et la capitale où on a une vacance qui est beaucoup plus importante en région que sur Paris de manière générale. Après, ce sont aussi des cycles. Le luxe a très bien fonctionné jusqu'à présent. Aujourd'hui, ça commence à se calmer un petit peu. Je ne dirais pas qu'il y a un problème dans le luxe, mais que ça performe un petit peu moins bien.
À cause du contexte géopolitique aussi.
Le contexte géopolitique, à cause de l'Ukraine, plus récemment de l'Iran.
Du Moyen-Orient, oui.
Et puis, évidemment, les marchés secondaires vont être moins résilients parce qu'on a aussi moins de flux touristiques. que par exemple, évidemment, à Paris. Après, comme vous l'avez dit, les enseignes de discount, les Lidl, Normal, Action, se développent très rapidement.
Oui, ça explose.
Ils présentent une alternative, ils présentent aussi quelque chose de nouveau.
Oui. Une réponse aussi au pouvoir d'achat qui se comprime.
Absolument. Oui. Dans les cas de conjoncture économique un petit peu difficile, effectivement, bon, bah, les Français vont limiter leurs dépenses et ils vont avoir tendance aussi à se reporter sur des achats peut-être d'impulsion qui vont moins faire mal au portefeuille. Ouais. Et c'est ça aussi qui fait la part belle aux enseignes telles qu'Action.
Ouais. Bah, c'est vrai qu'Action, ça marche bien, en tout cas. Alors, on va parler du e-commerce. C'est vrai que pendant longtemps, on a pensé, en tout cas, que le e-commerce allait remplacer ou du moins fragiliser les magasins. On le voit dans votre étude, dans votre dernière étude, on voit l'inverse quasiment. Les magasins restent au cœur des stratégies omnicanal. Comment vous l'expliquez, ça ?
Alors, on commence à avoir un peu de recul sur la question, et quand on parle avec nos clients utilisateurs, en fait, à chaque fois qu'ils vont ouvrir une boutique, ils aperçoivent immédiatement une réponse locale sur Internet. C'est-à-dire que, en fait, l'ouverture d'une boutique va stimuler localement, en fin de compte, la demande. Ça, on le voit. Et c'est encore plus vrai sur le Prime, puisque donc ça va leur donner une grande visibilité large, parfois internationale. Et ça va avoir tendance à booster, en fin de compte, les ventes en ligne. Les deux sont liés. Ça fait longtemps qu'on dit voilà, la part de marché du e-commerce est en croissance, mais une des raisons de la croissance et de la performance en ligne, c'est évidemment les magasins, les réseaux de retail, de magasins qui vont, en fin de compte, communiquer sur l'image de la marque, recruter des nouveaux clients, fédérer ces nouveaux clients et les envoyer après faire du repeat business sur les sites en ligne.
Donc en fait, les deux sont complémentaires. Enfin, il y a un qui lead et puis...
Absolument.
C'est ça, en fait.
C'est aussi intéressant d'ajouter à ça que la plupart des enseignes qui naissent en ligne finissent au bout de 2 ou 3 ans, avec un peu de succès, par ouvrir des magasins.
On pense à Amazon, par exemple. Aromazone, j'y arrive. C'était en ligne et là, ça ouvre dans certains centres commerciaux, ça cartonne.
Absolument. Aromazone, ça existe depuis 10 ou 12 ans. Ouais. Au début, il y avait une ou deux boutiques secondaires. Ils se sont énormément développés en ligne. Et aujourd'hui, ils ont lancé une expansion très importante en France et maintenant en Europe.
Ouais. Donc, on voit la complémentarité, en tout cas, du e-commerce et du commerce réel. On parle beaucoup d'expérience client, d'expérience dans le commerce. Vous le ressentez aussi, ça, l'expérience quand on va dans une boutique. C'est vrai que bon, le luxe joue beaucoup là-dessus. On pense, par exemple, à LVMH, Louis Vuitton, avec les suites là, sur les Champs-Élysées, par exemple. C'est une expérience, en fait, que proposent maintenant les enseignes.
L'expérience, c'est pareil, on parle beaucoup de l'expérience client.
Ouais.
Comment ça se traduit concrètement sur le marché? Les enseignes vont effectivement être beaucoup plus attentives. On a changé de marché. Avant, on était dans une économie de stock. Il fallait faire des promotions, faire du volume. Aujourd'hui, on va apporter beaucoup plus d'importance à la valeur de la marque, à l'identification que le client va pouvoir avoir. On va dire que les clients militent un peu plus et s'identifient aux marques. Leur objectif aujourd'hui dans leur flagship et dans leur réseau de boutiques, ça va être de faire vivre la meilleure expérience possible aux clients pour qu'ils se souviennent de la marque et puis aussi pour construire l'image, en fin de compte, ce qu'on appelle le brand equity. À ce titre-là, il vaut mieux un flagship marquant, grand, majestueux, avec une offre un petit peu différenciante sur le marché, plutôt qu'un réseau de 10 boutiques insipides. C'est ça qui va faire vraiment la différence aujourd'hui.
C'est dû à quoi, ça, les réseaux sociaux? On a l'impression que chaque marque, maintenant, doit, pour capter des nouveaux clients, doit raconter une histoire, les consommateurs doivent s'identifier à la marque. C'est quoi? C'est à cause ou grâce aux réseaux sociaux? D'où ça vient, cette tendance?
Les réseaux sociaux sont omniprésents. Oui. Après, on en tire un avantage ou on le subit. Quand on crée des boutiques qui sont belles, qui sont, on dit toujours aujourd'hui, instagrammables, en fin de compte, ça va créer de la valeur. Les gens vont partager ces choses-là. Un exemple emblématique, c'est Amorino. Quand vous avez une belle boutique Amorino, systématiquement, au moment où on achète une glace, il y a énormément de gens qui vont faire des selfies. Et donc, c'est évidemment, il faut voir la marque. Ils vont modeler la glace de façon à ce qu'on la reconnaisse. Et en fait, même si vous n'avez pas la marque, vous allez savoir où on est, ce que c'est. Et tout ça, ça va susciter l'envie chez d'autres de venir. Et bon, c'est là-dessus que ça se joue. Les marques qui n'ont pas pris le tournant de l'innovation digitale, qui n'ont pas travaillé leur image et leur concept en fonction des réseaux sociaux, malheureusement, ont du mal à tirer leur épingle du jeu aujourd'hui.
Mais la redoute, non ?
La redoute, c'est compliqué. Vous parliez de Minelli, il y a pour aussi des raisons de conjoncture économique, des enseignes qui ont vraiment des difficultés à s'en sortir. Après, aujourd'hui, les enseignes qui performent, ça peut être lié à des histoires de croissance de marché. On voit aujourd'hui les marques de lifestyle et assiégure qui explosent, tout simplement parce que leur marché est immense.
Par exemple, vous avez quelques exemples?
On a vu beaucoup se développer ces dernières années, Oka, Salomon, Allo, Lululemon, Arc'teryx, toutes ces marques margent énormément, elles fonctionnent beaucoup, ce sont des marques globales et elles attachent énormément d'importance à la taille de leur linéaire, à l'emplacement des magasins et donc elles communiquent très bien. Elles sont extrêmement actives sur les réseaux sociaux, elles fédèrent un peu leurs clients avec des expériences à la fois en physique dans les boutiques et en même temps dans les applications. Ça fait une différence considérable dans leur performance.
C'est considérable. En fait, ça fait partie de la stratégie, en fait. Ça doit faire partie de la stratégie, tout ce qui est réseaux sociaux. Quelles sont les enseignes les plus offensives sur le marché du Prime ? Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est lesquelles qui ressortent ?
Alors, sur le marché du Prime, on ne les entend pas forcément, mais les enseignes de luxe restent quand même très actives ces dernières années. Il y a un certain nombre de projets pharaoniques qui ont été lancés, rue de Castille-Guyonne, sur les Champs-Élysées. Les enseignes que je viens de citer, d'Assiégure et de Loisirs, tirent aussi leur épingle du jeu. Je pense que beaucoup d'entre elles ont fait leur première implantation au moment des Jeux Olympiques pour avoir une visibilité. En fin de compte, se sont aperçus que... Pour l'outdoor, il y avait une clientèle en France et une visibilité à Paris qu'on trouvait nulle part ailleurs en Europe. Et fort de ces bonnes
performances... Même en Italie, par exemple, en Italie, ça marche bien, le marché du luxe. La France est devant les autres pays européens ?
Je pense qu'en termes de luxe, il n'y a pas de comparable à ce qu'on peut avoir en France. Les relais de croissance vont être plutôt... ont été beaucoup en Asie, vont être aujourd'hui beaucoup aux États-Unis. L'Italie elle-même est un pays... qui est très très identifié au luxe.
Haute couture,
Le premier marché du luxe, ça reste Paris. Et le second, c'est important de le mentionner, qui est quand même Cannes, la croisette, qui fait un petit peu figure d'exception. Parce que, en fin de compte, la deuxième...
Avec les rendez-vous importants, c'est grâce à ça, j'imagine.
Absolument, parce qu'en fait, on va avoir une exposition
internationale.
Au flux. Un pouvoir d'achat local et international, et il y a une très forte concentration de ce qu'on appelle aujourd'hui les ultra high net worth qui en fin de compte vont être extrêmement sachants, de demander une expérience particulière, qu'on s'occupe d'eux, et en revanche être très peu sensible au prix et donc être capable de dépenser énormément.
Alors dépenser sans compter, comme on dit.
Dépenser sans compter. Si la qualité est là, le prix est un critère secondaire, voire inexistant.
La qualité et l'image. Est-ce que, quand on parle de Prime, juste les critères, c'est vrai, quand il y a une enseigne qui arrive, une enseigne Prime qui hésite, c'est quoi le critère numéro un, on va dire, pour son implantation ? C'est vraiment la localisation ? C'est quoi, avec le flux, c'est,
La localisation et le flux, bon, c'est deux critères qui se répondent, mais ça va être le flux et après la visibilité. Il faut pas, on travaille aussi en immobilier chez CBRE, il ne faut pas sous-estimer la force d'un bel immeuble.
Un immeuble haussmannien, par exemple.
Je ne les citerai pas, mais on a quelques exemples d'immeubles qui sont assez moches. Et en fin de compte, aussi bien placé soit-il, si la vitrine est un peu écrasée, si l'air est un peu ingrat, ou même que l'immeuble n'est pas très joli au-dessus, ça va avoir un impact sur l'image. À l'inverse, on a la chance, vous en parliez, d'avoir effectivement l'haussmannien à Paris. Un bel angle avec une grande vitrine et des belles hauteurs sous plafond. Quand les enseignes rentrent, on le voit tout de suite, nous, de façon extrêmement concrète. En visite, devant la boutique, on sait déjà si ça va bien se passer ou pas.
Donc l'immeuble en lui-même, l'actif, compte énormément.
Ah, absolument.
Plus que l'emplacement, du coup. Il faut que les deux soient
C'est des critères qui doivent se pondérer. Si on a un immeuble magnifique sans flux, c'est différent. Ouais. Tout ça se complète. Et en fin de compte, c'est quand on coche toutes ces cases-là qu'on va vraiment créer l'attractivité, faire venir les meilleurs retailers. et à ce moment-là, les mettre dans une situation de tension et permettre d'obtenir la meilleure valeur. Et les institutionnels l'ont bien compris, les propriétaires font aujourd'hui des travaux très importants pour mettre à disposition du marché des produits triple A. Ils ne vont pas hésiter à détruire de la surface pour faire des doubles hauteurs, à investir beaucoup de capex, puisqu'en fin de compte, les enseignes aujourd'hui qui se développent et qui ont les moyens sont très exigeantes, prêtes à payer les meilleurs loyers, mais pour avoir les meilleurs locaux.
Alors, on est au SIEC, qui réunit donc deux jours enseignes, investisseurs foncières et collectivités. Quel est aujourd'hui le sujet qui revient dans toutes les conversations en 2026, édition du SIEC 2026? Est-ce qu'il y a un sujet qui prédomine? Qu'est-ce qui préoccupe ou qui enthousiasme, au contraire, les acteurs, on va dire, les parties prenantes?
Je suis assez enthousiaste de voir qu'on a à nouveau au SIEC des enseignes internationales, plutôt plus que l'année dernière, et avec des développements assez importants à venir. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler d'enseignes qui allaient mal, de réseaux défaillants. On en entend encore parler. On en entendra encore parler. Il y a d'autres réseaux, évidemment, qui vont tomber.
Il y en a qui vont bien, heureusement.
Il y en a qui vont bien. Il y a beaucoup de marques de prêt-à-porter qui fonctionnent très bien, qui se diversifient, qui vont élargir leur gamme, qui vont prendre des magasins de plus en plus grands. Et puis, il y a aussi des nouveaux entrants qui vont arriver, ou voilà, des enseignes internationales qui...
On m'a parlé d'enseignes asiatiques, notamment. C'est ce que vous voyez, américaines, asiatiques.
Alors bon, on a beaucoup parlé de Miniso qui est arrivé en France. Il y a d'autres enseignes.
On a vu sur les champs, une belle boutique.
On a vu un peu sur les champs, ouvrir partout, sur des petits formats, des grands formats.
Petit format, c'est plutôt dans les métros et les gares.
Absolument, bon, ça va aller chercher les achats impulsifs. Après, bon, il y a aussi Popmart qui ouvre des flagships. Il y a aussi des enseignes de distribution spécialisées qui ont beaucoup de succès, qui ont longtemps existé en France, mais de façon assez, on va dire, exclusive et bien cachée, mais discrète. Et aujourd'hui, en fin de compte, c'est des produits qui sont très attractifs, qui ont une clientèle en France qui s'élargit.
Grâce aux réseaux sociaux aussi.
Qui se démocratisent et c'est un marché effectivement en croissance.
Et les réseaux sociaux jouent beaucoup, je pense au Miniso, bon, pour les enfants, les ados, etc. C'est vrai qu'il y a des tendances qui naissent sur les réseaux et ça devient... j'ai l'impression que c'est des accélérateurs de tendances. À l'époque, c'était... Bon, je ne vais pas dire ça, mais ça fait un peu vieux jeu, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça prenait peut-être un peu plus de temps pour qu'une tendance
se développe. De plus en plus vite. Et évidemment, les réseaux sociaux sont beaucoup plus présents qu'il y a 5 ou 10 ans, mais je pense qu'en fin de compte, il reste encore de la marge de manœuvre et qu'ils vont être encore plus présents à l'avenir. Ce sera bientôt impossible de compter sans et peut-être que bientôt, ce sera le principal vecteur de visibilité pour les enseignes.
Et alors, une dernière question, si vous deviez résumer le marché du retail leasing en une seule phrase aujourd'hui.
En une seule phrase, c'est un challenge.
Elle peut être grande, la phrase.
Parce que le thème, c'est le prime. Je dirais qu'aujourd'hui, les enseignes sont à la recherche des meilleurs emplacements, mais aussi pour avoir la meilleure performance, que les deux sont liés. Et que, dans le temps, ce qui fera la différence pour les enseignes qui vont performer du point de vue de leur immobilier, ça va être vraiment leur capacité à investir beaucoup et à être sélectif sur les meilleurs emplacements.
Eh bien, merci beaucoup Antoine de Bousquet d'avoir été avec nous sur le plateau de Radio Immo. On est en direct du SIEC. Pendant 2 jours, on vous fait vivre cet événement, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux. On est ravis vraiment de vous faire vivre cet événement pendant 2 jours. À tout de suite.
Le SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.